6h03, lundi 15 octobre. Bonne journée et bienvenue à l'antenne du 98.5 FM avec vraiment des conditions d'automne. Ce matin, 6 degrés, partiellement nuageux. On prévoit d'ailleurs que de la pluie devrait commencer, de la pluie intermittente, un petit peu plus tard ce matin. Les vents sont modérés, le maximum prévu, 12 degrés. Ce soir et cette nuit, encore là de la pluie intermittente, probablement jusqu'en fin de soirée. Ça demeure nuageux par la suite, avec des vents jusqu'à 80 km/h ce soir, donc c'est assez venteux, minimum de plus 4. Pour demain, mardi, généralement nuageux, venteux aussi, surtout le matin, maximum prévu 9 degrés. Il n'y a pas véritablement de pluie au menu demain. Les averses sont prévues pour mercredi, avec un maximum de 8. Puis quand je regarde à plus long terme, c'est clair qu'on a des températures plus froides que les normales de saison. Jeudi, 5 degrés, soleil. Vendredi, du soleil, 11 degrés. Et par exemple, dans la nuit de jeudi à vendredi, on sera sous le point de congélation. Bon, il y a deux événements, si vous voulez, cette semaine. D'abord, c'est mercredi que le cannabis sera officiellement en vente légale. Et deux, c'est aussi cette semaine que François Legault va présenter et faire assermenter le gouvernement de la CAQ. Ce matin, là, il y en a que pour le cannabis. Je fais le tour là, des journaux puis des médias. La liste est tellement longue. Je vous descends ça, puis je le sais, là, ça provoque à chaque fois des réactions, des gens qui disent « Ah, vous faites peur au monde ». Alors, je vous livre ça en vrac, puis vous me direz par vos commentaires ce que vous en pensez. D'abord, il y a une étude qui a été faite, un essai clinique par l'Université McGill et l'Institut de recherche du Centre universitaire Santé McGill, financé par le CAA, qui démontre que les jeunes conducteurs canadiens qui consomment du cannabis sont plus à risque d'être impliqués dans un accident de la route, même 5 heures après avoir inhalé. Alors, ce que ça démontre, c'est que les jeunes conducteurs qui consomment du cannabis, et là, on parle d'une quantité inférieure à celle qu'on retrouve habituellement dans un joint, ont des habiletés comme le temps de réaction, la vitesse de réaction, qui pose problème, donc, 5 heures après avoir inhalé. Alors, c'est clair qu'on a testé, donc, en laboratoire des jeunes de 18 à 24 ans et que les facultés de conduite se détérioraient dès qu'ils étaient exposés à des distractions comme celles qui se produisent inévitablement sur la route. Alors, une étude, vous me direz, oui, mais ils en consomment déjà. C'est une clientèle qui est évidemment bien représentée dans le marché du cannabis. C'est une étude sur l'impact concernant la conduite avec faculté affaiblie qui va demeurer, là. Évidemment, c'est plus compliqué à prouver que quelqu'un qui a trop consommé d'alcool, mais c'est la première étude. Deuxième, c'est dans le Devoir, c'est une mise en garde contre une hausse de l'usage du cannabis. C'est le journal de l'Association médicale canadienne qui alerte Ottawa, qui dit que ce qu'on s'apprête à faire cette semaine, c'est une expérience incontrôlée lancée à la face de la santé des Canadiens. Éditorial virulent, dit-on dans le Devoir, toute augmentation de l'usage du cannabis à des fins récréatives après l'entrée en vigueur de la légalisation, autant chez les adultes que chez les jeunes, doit être vue comme un échec de la législation. Alors là, c'est une revue médicale qui se prononce là-dessus. Le pot pollue, ça c'est un autre aspect. Évidemment, on tente de démontrer que la production de cannabis a un impact aussi sur les gaz à effet de serre. Puis même dans The Gazette ce matin, c'est « Est-ce que mon chat pourra avoir du cannabis? » Parce que c'est l'histoire d'une femme dont le chat est anxieux, le chat se lèche tellement qu'il perd son poil, puis que ce qui lui fait du bien, c'est une espèce d'huile à base de cannabis. Et là, officiellement, il n'y a pas de produits vétérinaires avec du cannabis qui seront vendus légalement. Alors, je vous le dis là, ce matin, ce n'est que ça, avec des points de vue, évidemment, qui sont très, très opposés. Des médecins qui considèrent qu'on s'énerve pour rien, d'autres qui considèrent qu'il faut faire le même genre de campagne anti-cannabis comme ce qu'on a vu comme campagne anti-tabac. Et on tente maintenant d'évaluer l'impact financier. Dernier volet de ça ce matin. Dans la presse, on nous dit que les marchés sont assez fébriles parce qu'on a vu la valeur d'entreprises comme Canopy Growth, Exo, qui ont pratiquement doublé cette année. Des gens qui ont investi, qui ont spéculé, qui ont revendu et qui disent que le marché va se stabiliser. Parce que la question fondamentale, c'est quoi? On sait qu'il y en a qui consomment, évidemment déjà, que le Canada Et selon les évaluations statistiques qu'on peut faire, un pays où il y a quand même une bonne consommation, alors quel sera l'impact réel de l'arrivée de la légalisation? Il y a déjà des gens qui indiquent dans des sondages qu'ils ont l'intention de continuer à consommer sur le marché noir. D'autres qui disent que ce soit légal ou pas, ça ne change rien, ça ne m'intéresse pas, donc je n'ai pas l'intention d'en consommer. Et beaucoup de gens qui, disent-ils, veulent passer, je dirais, du côté sombre au côté légal, même si le produit, puis ça va être une forme de test. Alors, en résumé, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, quelle sera l'ampleur des ventes. Je rappelle que la Société québécoise du cannabis, on avait l'impression peut-être de ne pas avoir l'essentiel des produits dont on a besoin parce qu'il y a une demande qui est très forte, mais on est beaucoup dans la spéculation, donc on va voir comment tout ça va s'implanter. Donc, premier dossier, je vous le disais aussi, c'est cette semaine qu'on va assermenter le gouvernement Legault. Et là, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent sur qui sera ministre, qui ne le sera pas. Il y a comme des choix qui s'imposent. On sait que M. Legault veut avoir la parité, mais il y a toutes les considérations régionales également qu'il faut, dont il faut tenir compte. Dans les autres nouvelles ce matin, je veux vous parler de l'affaire Bété, Jonathan Bété, qui a vu un juge ordonner la fin des procédures contre lui. Je sais que c'est arrivé vendredi, mais je pense que c'est important qu'on aborde cette question-là. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de réactions d'auditeurs par courriel en disant, c'est écœurant, comment ça se fait qu'il est acquitté d'accusations qui avaient été portées contre lui pour de la porno juvénile. Le juge Jacques Lacourcière a tranché que les preuves retenues contre lui avaient été donc obtenues par les policiers lors de ce qu'on appelle une partie de pêche. C'était abusif. Et que, finalement, on avait violé ses droits fondamentaux. Puis il a blâmé le travail des policiers. Je veux juste rappeler deux, trois choses. La première, les accusations ne sont pas en lien avec la disparition et le meurtre de Cédrica Provencher. Vous le savez comme moi, là, puis on va appeler un chat, là, Bété est le suspect numéro un depuis le début de cette affaire-là. Pourquoi? Parce que, d'abord, il est lié à une voiture qui est rare, la fameuse Acura. Il y a plusieurs éléments qui sont flous dans son histoire. Ses parents également sont pour le moins mystérieux. Les enquêteurs dans le dossier ont tout fait. Puis quand je dis tout fait, là, c'est allé très loin. Des opérations M. Big, de l'écoute, des caméras de surveillance, de la filature. Bref, on a mis le paquet pour aller chercher la preuve. Dans le cas de la porno, la couronne voulait démontrer la présence de traces informatiques permettant de le lier à de la consommation de porno. Le juge a dit, vous êtes allé trop loin. Et M. Bété a des droits. Et donc, je l'acquitte. Le dossier est pas mal fermé. Et on peut spéculer jusqu'à demain, mais c'est quand même ça, la justice. C'est qu'on n'est pas en mesure, selon le juge, de présenter une preuve valable pour le faire condamner. Et déjà depuis le début, son avocat répète la même chose. Puis là, il y a des gens qui ne croient pas au système de justice en disant que c'est écœurant, puis bon. Je comprends la frustration des enquêteurs. Je comprends que quand tu dis que tu as tout fait ce que tu pouvais pour trouver l'auteur du meurtre de Cédrica, puis que tu n'es pas capable de le coincer, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Il n'a jamais été accusé. Il a refusé de passer le polygraphe, puis on n'est pas capable d'avoir des éléments de preuve contre lui. Il a réussi à déjouer la police. Si, évidemment, il est coupable de quoi que ce soit. Mais il ne l'est pas. Il n'est même pas accusé. Alors, on en est là avec M. Bété. Et là, si vous êtes enquêteur, vous faites quoi? On recommence l'enquête de quelle façon ou on poursuit l'enquête de quelle façon? Et ça, c'est à part. C'est drôle, j'écoutais District 31 dans l'épisode de la semaine dernière où on racontait justement, où on citait cette phrase célèbre, tu sais qui l'a fait, mais tu n'es pas capable de le prouver devant le tribunal. C'est en tout cas la perception des enquêteurs de la Sûreté du Québec. 6h13 marque les points chauds. Parfait, on poursuit dans les autres nouvelles. Michel Courtemanche était à l'émission Tout le monde en parle hier pour parler de cette autobiographie qu'il publie, où il raconte évidemment sa vie, son histoire. C'est écrit par Jean-Yves Girard et c'est publié aux éditions K.O. Bon, il raconte sa vie, ses problèmes, ses angoisses, le fait qu'il est bipolaire, le fait qu'il a consommé beaucoup, drogue, alcool, que c'est quelqu'un qui a vécu des drames, qui a pensé à la mort, qui a eu, bon, des idées sombres. Tout ça arrive en parallèle avec une carrière qui explose, qui est formidable parce qu'il rayonne partout dans le monde. Même dans le livre, on raconte qu'il est allé passer une audition pour jouer dans un Star Wars, un des personnages. Mais que ce qui se dégage d'hier, évidemment, c'est le fait qu'il accuse son gérant, François Rozon, celui qui a été avec lui pendant quoi, 20 ans, de l'avoir volé. J'ai lu le livre, Michel Courtemanche sera avec nous tantôt. Et ce qu'il dit, d'abord, ce qui est clair, c'est qu'on est dans une époque où cette pratique du pourcentage élevé est assez connue. Et lui, il admet là, qu'il n'y a personne qui l'a forcé. Vous me direz, il a toujours bien accepté les contrats, il les a signés, ça ne faisait pas son affaire, c'est vrai. Mais en même temps, vous êtes dans un contexte où, juste pour rire, un monopole sur les humoristes. Puis si on recule dans le temps, là, si tu n'acceptes pas les conditions, ça va être difficile. Bon, impossible, mais ça va être difficile. Alors, ce qu'il dit en gros, c'est que M. Rozon a pris 50 % de ses revenus. Et que lui s'en est rendu compte au fil des ans que cet argent-là lui revenait. Puis même des cachets, là, que ce soit sur une pub comme réalisateur, comme invité. Bref, il collectait surtout. François Rozon a émis un communiqué hier soir en disant que Courtemanche était quelqu'un extrêmement talentueux. Qu'à l'époque, quand ils se sont connus, donc les deux, dans la jeune vingtaine, j'avais eu le courage ou l'insouciance de défoncer toutes les portes et de prendre des risques avec lui et pour lui. Nous avons bâti autour de Michel une équipe formidable en plus d'investir des sommes colossales pour lancer sa carrière et à l'international. Il ne dit pas là, que ce que prétend Courtemanche au niveau des pourcentages est faux. Là. Il dit qu'on a investi et qu'il a été témoin des maladies et de la souffrance de Courtemanche. Parce qu'au-delà du fric, l'autre volet qui est soulevé par Courtemanche, c'est qu'on a pressé le citron, qu'on l'a abandonné, qu'on le savait malade, puis qu'on l'a forcé à performer quand même, au point où il finissait souvent des journées en position fœtale, puis en étant complètement malade et déprimé. Qu'on l'a laissé seul en Europe, alors qu'on maximisait le rendement sur l'investissement. Alors, M. Rozon prétend que tout ça n'est pas vrai et qu'ils ont été partenaires égaux dans des entreprises, que chacun de nos contrats a été conclu en bonne et due forme et respecté fidèlement. Nous avons bénéficié tous les deux à travers les succès et assumé les responsabilités des projets qui n'ont pas fonctionné. Alors, vous avez l'artiste qui dit « Pendant 20 ans, on a pris mon fric, j'ai été la vache à lait. » Puis de l'autre côté, le gérant qui dit, et qui nie pas là, le pourcentage, mais qui dit « Ouais, mais il fallait investir. » Puis il fallait mettre de l'argent pour faire rayonner au Québec et à l'étranger Michel Courtemanche. Voilà pour cette mise au point. Il y a également Sears qui, officiellement, aux États-Unis, se place sous la protection de la loi, là, de ce qu'on appelle le chapitre 11 sur les faillites. On sait qu'au Canada, c'est quoi? Ça fait déjà maintenant pratiquement un an que Sears a fermé ses portes. On parle de 250 magasins, 16 000 personnes qui ont perdu leur emploi. Et là, c'est donc le holding financier américain qui veut se protéger. Je regardais le cours de l'action de Sears qui est passé le 14 octobre 2013 à $54.75, au 12 octobre dernier à 41 sous. C'est ce que ça vaut. Et on sait que c'est un chevalier de l'industrie. Eddie Lampert, qui a acheté la compagnie en 2004 et que la compagnie s'est effondrée, évidemment. Lui a fait une passe d'argent au début, mais la compétition de Amazon, Walmart et les autres ont eu raison de Sears, qui pendant longtemps a été quand même un géant assez extraordinaire. Parlons de l'affaire Khashoggi, la tension qui monte entre Riyad et ses alliés. Alors, je rappelle que c'est un journaliste qui est entré au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul le 2 octobre. C'est un critique du régime. Remarquez qu'à l'époque, ou à une certaine époque, il était près d'Oussama Ben Laden. Il était assez près de la famille royale saoudienne. Et après les attentats du 11 septembre, il a comme bifurqué et dénoncé l'intégrisme du régime. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il a décidé de s'installer aux États-Unis, de critiquer le régime saoudien, malgré le fait que le nouveau leader ait montré cette espèce d'ouverture en permettant, entre autres, aux femmes d'avoir le droit de conduire. Mais là, on voit donc que ce gars-là entre et disparaît, puis on ne le retrouve jamais. Puis l'Arabie saoudite ne dit pas nous autres. Alors, il est où? Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'on a disposé de son corps? Triple point d'interrogation. Et les Américains menacent le régime saoudien de représailles si on fait la preuve que c'est une commande de la famille royale. Et partout dans le monde, c'est la même réaction. Et pour vous donner juste un exemple, on devait, et on fait ça depuis un an maintenant, où on organise une espèce de ce qu'on appelle le sommet de Davos dans le désert, où l'élite financière qui fait affaire avec l'Arabie saoudite se réunit. Et là, on apprend que plusieurs des acteurs ont décidé de ne pas être présents pour la prochaine rencontre. Et que vous retrouvez des gens comme, par exemple, le patron de Uber. Les Saoudiens ont mis une fortune dans Uber. Puis il dit, moi, je ne vais pas à votre meeting tant que je ne sais pas ce qui s'est passé avec le journaliste en question. Même le président Trump s'est montré un petit peu, disons, menaçant à l'égard de l'Arabie saoudite. Puis là, on a vu le marché qui a été affecté. Et là, c'est le prix de l'essence, évidemment, le prix du pétrole qui va faire l'objet peut-être de spéculations. Et les Saoudiens qui disent, si vous voulez jouer cette partie-là, on va retirer nos investissements, on n'achètera pas votre équipement militaire, puis on va vous envoyer une facture encore plus salée pour le prix du pétrole. Et puis un mot en terminant, vous avez entendu peut-être la pub tantôt pour les gens qui veulent savoir qui sont leurs parents biologiques. Et vous pouvez faire une demande, vous avez le droit d'aller chercher de l'information. Mais là où ça devient compliqué, ce sont les délais. La presse nous dit ce matin que le nouveau guichet qui a été créé pour les enfants adoptés ne suffit pas à la demande. La semaine de son ouverture, 14 000 appels ont été logés. Au total, on est rendu à 21 500. Et il y a 8 fonctionnaires pour gérer tout ça. Alors, vous imaginez le temps que ça va prendre. Et il y a des gens qui ont donné leur enfant en adoption, qui ne veulent pas que leur nom sorte. Et là, vous avez une date à respecter pour que ça soit bloqué. Sinon, l'enfant biologique va pouvoir essayer de savoir qui sont ses parents biologiques et qui est sa mère, qui est son père. Puis il y a des gens qui vieillissent, qui veulent avoir une réponse. Mais ce qu'on comprend, là, c'est que, évidemment, ça risque d'être assez long. Il est 6h22 avec tout ça. On va aller voir ce qui se passe sur la 13.